Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, apprendre une langue étrangère grâce au numérique. Miracle ou mirage, les applications, les logiciels vous proposent d'apprendre n'importe où, n'importe quand, à votre rythme. Alors, quelle est l'efficacité réelle de ces technologies au service des langues? À quel prix, en termes d'efforts, en termes de dépenses financières? Comment s'y retrouver aussi dans le foisonnement des offres? Et puis l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup en ce moment, peut-elle donner un coup d'accélérateur à l'apprentissage des langues en fonction peut-être des progrès de chacun, du cerveau de chacun? On attend vos témoignages, vos expériences, les voisins et les voisines. 33 1 84 22 71 71. Si vous tentez, si vous avez réussi à apprendre une langue grâce à un site, grâce à une application, surtout, vous nous appelez, n'attendez pas la fin de l'émission. Et je vous précise que cette émission est réalisée en partenariat avec le site d'information The Conversation. Bonjour Aurélie Djavadi.
Bonjour.
Vous êtes justement chef de rubrique éducation à The Conversation, qui est un site d'information pas tout à fait comme les autres.
Alors oui, on a pour but d'éclairer l'actualité et les tendances de société par la recherche en donnant la parole aux enseignants-chercheurs. Ce sont eux qui écrivent, qui signent les articles, et nous les aidons en tant que journalistes dans le travail d'édition.
Voilà. Et tous ces articles sur ce dossier sur l'apprentissage des langues est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. Mm-hmm. On pourra retrouver tout le dossier sur votre site. Et avec nous, donc, un des auteurs des articles, Mathieu Cizel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur sur la question du numérique pour l'apprentissage à l'université de Cergy-Pontoise, et vous publiez donc un article sur le sujet sur le site The Conversation. Enfin, d'émission, la chronique du psychologue Ibrahima Giroud, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Il nous expliquera aujourd'hui comment accompagner son enfant du réveil jusqu'à l'école. Allez, je vous lis quelques commentaires postés sur nos réseaux sociaux sur l'apprentissage des langues. Il y a Alioun qui est à Nouakchott en Mauritanie. Il nous dit, il y a 3 ans, j'ai choisi d'apprendre l'anglais britannique avec l'appli de Michel Thomas. On dirait plutôt Michael Thomas, non? Je ne sais pas. Vous la connaissez, cette application, Mathieu Cizel?
Oui, dans le temps, je l'avais testée, oui.
C'est une appli payante, mais je l'utilise sans m'abonner. Alors, j'imagine qu'il prend la partie free. Il y a toujours une partie en libre accès pour voir, pour allécher le client potentiel. Et elle nous dit qu'il en est au niveau 10 sur plus de 20 niveaux. Aujourd'hui, j'ai un niveau passable, mais je peux discuter avec des anglophones. Avec une appli, c'est plus facile qu'avec les livres. Je m'occuperai de la grammaire après. Fridolin est au Congo, Brazzaville. Il nous dit, moi je suis bilingue en anglais, j'ai aimé l'anglais dès le début de mon apprentissage en 6e. Je me débrouille en portugais, je me débrouille en espagnol, des langues que j'ai apprises par correspondance et en ligne. Il y a Jean Williams aussi qui nous écrit de Léogane en Haïti. Je m'améliore en anglais, français et espagnol à l'aide d'appli. Le truc le plus difficile, nous dit Jean Williams, c'est la vitesse dans la prononciation quand il faut dire les choses vite. Alors je précise quand même que nos auditeurs, hein, ils ont cet atout, beaucoup de nos auditeurs en tout cas ont cet atout incroyable, c'est qu'ils sont déjà multilingues, hein, tous ceux qui nous écrivent et qui vont nous téléphoner, puisqu'ils parlent des langues africaines. Donc forcément, ils ont une longueur d'avance sur nous, en tout cas sur moi en ce qui me concerne. Et par exemple, Jean Williams, en Haïti, il y a le créole, il y a évidemment la proximité de l'espagnol avec l'autre partie de l'île qui est hispanophone, Saint-Domingue. Et puis il y a l'influence américaine anglophone très forte de la diaspora haïtienne aux États-Unis. Voilà quand même pour cette petite mise au point. Et c'est pour ça qu'on attend d'autant plus vos témoignages, les voisins et les voisines, sur l'apprentissage des langues via le numérique. 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp. Voici la réaction d'un voisin, un message posté sur WhatsApp.
Bonjour à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Bonjour à toutes les voisines et voisines. Moi, c'est Khalilou à Cotonou. Moi, j'ai appris l'anglais grâce à mon smartphone. C'est-à-dire, je suis un grand fan de musique. Donc, j'ai téléchargé un petit appli nommé Music Match sur mon smartphone, qui permet de traduire les musiques à langue qu'on veut, bon, disons à langue qui sont disponibles. Par exemple, lorsque la musique est en français, bon, on peut le traduire en anglais ou à autre langue, ou en arabe, par exemple. Et concernant les films, bon, lorsque je regarde un film qui est en français, par exemple, je mets le sous-titre en anglais. Et lorsque le film est en anglais, bon, je mets le sous-titre en français. C'est comme ça que je faisais. Bon, avec le temps, j'ai pu corriger un peu l'accent et puis la prononciation de certains mots. Bon, puis dès que bon, maintenant je me débrouille pas mal en anglais. Bon, au revoir, ciao, ciao à toute l'équipe.
Ouais, c'est vrai qu'avec les sous-titres, Mathieu Cizel, bah, ça incite plus à rentrer dans le bain linguistique d'une autre langue.
Ah oui, c'est sûr, c'est une des techniques les plus répandues, je pense, de mettre les sous-titres dans la langue qu'on veut apprendre, et dès qu'il y a un mot qu'on ne connaît pas, on le cherche et on essaie de le mémoriser.
Les séries, ça a quand même permis à pas mal de jeunes Français de sortir un peu du très mauvais niveau de langue de la France.
Et il y a même des sites d'apprentissage de langue qui se fondent sur ces séries, hein, Kios est un des plus connus en France, pour précisément capitaliser sur l'attrait que présentent ces médias.
Alors, on va en parler de cette offre qui est vraiment foisonnante pour apprendre les langues étrangères aujourd'hui. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Et tout de suite, je vous propose d'écouter un témoignage. Mathilde, 29 ans, elle habite à Saint-Denis. Elle est chargée de communication dans la fonction publique. Et depuis quelques mois, elle s'est mise à l'apprentissage du persan via Mondly, une application de langue, et elle témoigne au micro d'Alice Milo.
Il y a bientôt 3 ans, j'ai fait un voyage en Iran. C'est un pays qui m'a complètement fascinée. Et en fait, peu de temps après, j'ai rencontré mon copain qui habite en France, qui est iranien, mais qui parle anglais, qui apprend aussi le français, enfin maintenant qu'il parle bien. Et l'année dernière, je suis allée avec lui en Iran. Je suis retournée, et je suis retournée notamment dans sa famille. J'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir échanger, notamment avec sa famille. Et en rentrant, je me suis dit, bon, faut que je fasse quelque chose. Donc au départ, on commençait tous les deux, mais en fait, c'est pas si facile non plus dans un couple, notamment quand les deux apprennent la langue de l'autre. Et donc j'y ai réfléchi quand même à cette question de prendre des cours le soir. Et voilà, en fait, donc il n'y a pas beaucoup de structures qui donnent des cours de persan sur Paris. Il y a l'INALCO, sauf que l'INALCO, c'est juste à l'autre bout de chez moi. C'est vrai que j'avais pas envie non plus de me mettre des contraintes telles pour apprendre le persan. J'avais envie juste que ce soit petit à petit, quand j'ai le temps. Et un jour, en échangeant avec les collègues au travail, je parlais justement de mon envie d'apprendre le persan. Et il y en a un qui m'a dit, bah regarde, s'il n'y a pas des applis. Et je suis allée sur l'Apple Store tout simplement. J'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup pour le persan. Mais j'en ai téléchargé une au pif. Ça fait 3 mois que je l'utilise. Hop, je fais démarrer. Par exemple, il m'énonce chaussure, il me montre le mot chaussure, et du coup, il y a plusieurs images, dont une chaussure. Donc, ouais, forcément, je dois cliquer sur la chaussure. Mais en fait, mine de rien, ça rentre dans ma tête, quoi. Et ça fonctionne plutôt bien. Il y a des mots que j'ai appris il y a 3 mois et je m'en souviens bien, alors que en fait, j'ai aucune raison de m'en souvenir.
Ils font vraiment appel en fait à votre mémoire là, auditive et visuelle.
Oui, tout à fait. Et l'habitude aussi, parce que en fait, toutes les semaines et à chaque fin de mois, il y a des tests. Mais oui, j'ai appris du vocabulaire. Quand j'échange du coup avec la famille de mon copain, parfois j'essaye de caser des mots de vocabulaire. Ça fait rire tout le monde, mais c'est aussi ça qui me donne envie de continuer à apprendre, quoi. Je vais avancer un petit peu pour montrer aussi à quoi ça ressemble. Et là, par exemple, on a un exemple de phrase. De semaine en semaine, ça se complexifie un petit peu. Mais là, il me donne une phrase à trous, en l'occurrence une question à trous. Et du coup, il faut que je retrouve quel est le trou. Donc là, je le retrouve, c'est les vêtements qui manquent. Est-ce que ce sont vos vêtements? Et du coup, là, il me dit vérifier. Hop, c'est bon, c'est correct.
Et donc là, on a envie de vous l'entendre dire en persan.
Inha le bas chaye shoma hastand. Je sais pas si j'ai la bonne prononciation, ça aussi c'est un vrai écueil de ce type d'application, c'est que là en tout cas, il n'y a pas suffisamment d'interaction jusqu'à me permettre de corriger ma prononciation. Et ça, je pense que ça se fera uniquement par la pratique. C'est-à-dire que ce type d'outil, c'est bien dans le sens où bah, c'est mieux que rien, c'est ludique, c'est un petit peu tous les jours. Mais effectivement, il y a des manquements clairs. Moi, je trouve que, en tout cas, dans l'apprentissage d'une langue, on a besoin d'apprendre la structure. Apprendre voilà, les pronoms personnels, les verbes, essayer de conjuguer les verbes, etc. Avec l'appli, c'est pas du tout la méthode qui est employée. C'est on te met des images, on te met le mot à côté. Je suis critique vis-à-vis de cette application, mais en même temps, je la garde. Je paye hein, quand même aussi, donc je sais pas si je vais la garder très très longtemps. On va voir en fonction de mon utilisation dans les mois qui viennent.
Ça coûte combien ?
Ça coûte 9,99 par mois.
Ah oui, quand même.
C'est vrai que c'est cher pour une machine en face de moi, mais bon, en même temps, voilà, j'ai la motivation, j'ai envie de m'y mettre. Je sais pas combien de temps je vais l'utiliser, peut-être 2-3 mois de plus. Je suis pas sûre d'avoir envie non plus d'utiliser ça très longtemps, mais c'est une petite motivation. En parallèle, du coup, j'ai commencé sur mon manuel de persan qui est publié par l'INALCO, donc qui est quand même aussi plus sérieux dans l'apprentissage d'une langue. On va voir ce que ça va donner.
Pour vous, en fait, cette application, c'est pas une fin en soi, c'est un support complémentaire à d'autres outils, quoi.
Ouais, tout à fait. Rien ne remplacera jamais une conversation ou une période passée dans le pays à essayer de s'imprégner de la langue et de la culture. Mais voilà, ça reste extrêmement basique. Il faut pas avoir trop d'ambition en téléchargeant une appli et se dire qu'on va devenir bilingue. Hein. Je pense que ça reste très basique, mais parfois ça suffit pour échanger, arriver à se faire comprendre et à participer à tout ce qui se passe, à essayer de marchander par moi-même, ne pas dépendre des autres.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Il faut pas avoir trop d'ambition, mais ça marche quand même un peu finalement. C'est ce que nous dit Mathilde. Aurélie Djavadi, c'est un peu ce que vous constatez aussi.
Oui, alors, c'est un témoignage très intéressant parce qu'elle fait un vrai panorama des atouts, des inconvénients de ces applis. On l'entend qui répète la phrase, voilà. Et là, on sent en fait un petit peu la timidité, les hésitations dans la prononciation. Alors là, la raison, à la fois, on manque du retour de l'enseignant qui permet de corriger. Mais il y a quand même cet avantage des applis qui est de lever certaines inhibitions. On peut hésiter face à un public, en classe, devant le professeur, à s'exprimer. Et l'application permet ça, en fait. Donc voilà, c'est une flexibilité aussi, une possibilité de revenir sur des exercices. Mais ça ne remplace pas une progression structurée par un enseignant. Voilà.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Cizel, finalement?
Je suis d'accord sur les limites de beaucoup d'applications, sur le fait qu'en fin de compte, les parcours sont parfois un peu linéaires et il y a beaucoup d'activités qu'on ne peut pas faire comme on les ferait en classe. Néanmoins, je pense qu'elles ont quand même des potentiels de personnalisation qu'on ne peut pas avoir au sein de la classe. Voilà. Par exemple, sur des mots de vocabulaire, aucun enseignant peut savoir pour une classe de 30 personnes quels mots sont maîtrisés par quel élève, à quel degré. Alors qu'une application, finalement, par des petits algorithmes assez simples, peut aller jusqu'à ce niveau de personnalisation.
L'audio systématiquement associé à l'image aussi, ça c'est la bonne approche pour la mémorisation ?
Oui, évidemment. Multiples modalités en même temps, c'est une des meilleures approches pour mémoriser, oui. Ouais.
Alors toute la question quand même, Mathilde le dit, elle a pris une application comme ça, au petit bonheur la chance. On a un foisonnement d'offres, certaines applications ont des millions de comptes créés. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de résultats ? Comment s'y retrouver ? Il y a différentes approches, Mathieu Cizel ?
Il y a énormément d'approches différentes entre ces applis. Il y a celles qui vont justement mettre l'accent sur le côté conversation sociale pour essayer de compenser ce petit côté parfois déshumanisé qu'on reproche à certaines applications.
Ouais. Mais là, il faut déjà parler un peu la langue.
Pas nécessairement. En fait, il y a des applications comme Boozoo qui vont mettre en lien des parfaits débutants avec des locuteurs plus ou moins natifs. Après, ça impose en fait ce qu'on appelle l'apprentissage par les pairs. Donc, tout ce qui est apprentissage par les pairs,
ouais,
parfois...
Une communauté d'apprenants qui...
Voilà, une communauté d'apprenants. Après, avec les limites qu'on peut imaginer, quand on veut passer ça avec des millions de personnes, on demande aux utilisateurs parfois de s'improviser tuteur d'un autre utilisateur. C'est pas évident non plus.
Et d'autres approches plus classiques ?
Il y a des approches comme tout ce qui est exercice de grammaire, justement, qui font des fois à certaines applications.
Donc des textes à trous.
Des textes à trous, ça c'est presque le plus commun en fin de compte.
Donc il y avait déjà dans nos cahiers d'exercices
exactement,
de langue.
C'est une version digitale en fait de ce qu'on a connu quand on a fait du Bled ou du Becherel. Sauf qu'on peut rajouter des éléments de personnalisation que n'avaient pas les livres.
Vous nous le disiez tout à l'heure, Mathieu Cizel, apprendre une langue avec une série, il y a une application qui propose ça.
Il y en a plusieurs. Même en France. Kios, il me semble, qui est une des connues, mais il y en a beaucoup, oui.
Et alors là, ce n'est pas juste les sous-titres et la série. La série est utilisée aussi en tant que matériel pédagogique ?
C'est-à-dire que parfois, les sous-titres sont cliquables. C'est-à-dire qu'il y a un mot qu'on ne connaît pas, on clique dessus, ça nous l'envoie dans une base de vocabulaire à mémoriser.
Il y a des applications qui proposent d'enseigner les langues avec des jeux vidéo. Vous y croyez, vous ?
En fin de compte, sans aller jusqu'à des applications dédiées, les jeux vidéo, ça nous expose à beaucoup de vocabulaire. Si j'y crois, oui, je crois qu'on peut apprendre beaucoup de vocabulaire comme ça. Dire que ça serait la voie que je recommanderais, non, parce que finalement, je pense que beaucoup... En fait, vu le temps investi, le retour sur investissement est probablement pas le plus élevé avec les jeux vidéo, je pense.
Oui, enfin néanmoins, on a beaucoup joué quand même, on s'est bien amusé.
Voilà, c'est ça.
Vous le dites dans votre article, Mathieu Cizel, l'enseignement des langues, c'est vraiment un des grands sujets de l'éducation en ligne. C'est probablement ce qui recueille le plus de succès aujourd'hui dans les sites d'enseignement.
C'est assez notable, notamment qu'on le voit avec les MOOC, hein, quand les cours en ligne gratuits. Quand ils se mettent sur le domaine des langues, tout de suite, ils battent tous les records. Mmh. Alors qu'on était souvent entre, disons, 5 à 10 000 inscrits pour un MOOC francophone, sur des MOOC de langue, MOOC du FLE, hein, français langue étrangère, on passe très vite à 40 000 pour l'Alliance française, on a dépassé 100 000 pour un MOOC de l'école polytechnique. Enfin, c'est des chiffres impressionnants par rapport et qui montrent à quel point les langues sont une des premières demandes de l'apprentissage en ligne.
Ça veut dire, Aurélie Javadi, que finalement, aujourd'hui, quand on envisage d'apprendre une langue ou de se perfectionner dans une langue, forcément, on pense numérique aussi ou d'abord ?
On y pense. Alors, est-ce que je peux revenir un petit peu sur ce que disait Mathieu par rapport aux jeux vidéo ? On a publié un article d'un auteur anglo-saxon sur cette question des jeux vidéo. Il prenait justement le cas où des enseignants mobilisent ces ressources en classe, justement pour faire de la personnalisation. C'est-à-dire que le jeu vidéo s'intègre dans un scénario qui est quand même travaillé par l'enseignant. Et l'intérêt, c'est qu'il va y avoir une motivation autre que l'idée d'apprendre seulement la langue. On va devoir l'utiliser pour communiquer avec ses camarades de jeu, progresser, gagner des niveaux. Et donc ça, tous les linguistes le disent, pour progresser dans une langue, en fait, il faut faire autre chose que d'apprendre la langue. En fait, il faut devoir l'utiliser et communiquer. Donc, le numérique, en fait, voilà, ça va être un outil qui va permettre d'automatiser certaines tâches, ces exercices dont vous parliez, ces manuels d'exercices qu'on avait avant, ça permet d'avoir une correction automatique qui, même si elle n'est pas aussi précise que celle que donnerait un enseignant, voilà, on sait si on a bon, si on a faux, et ça peut permettre d'externaliser...
Et de permettre la répétition aussi, puisqu'on apprend une langue aussi par la répétition.
Mmh. Et ça permet d'externaliser certaines tâches pour que les enseignants puissent se centrer plus sur ces activités de communication, d'adaptation au niveau de l'élève. Ça permet de réorganiser les cours, en fait. Le numérique est là aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. On se souvient d'époques où, pas si lointaines, en fait, où les enseignants arrivaient en cours avec le magnétophone, la cassette. Aujourd'hui, c'est différent. On a accès, comme vous dites, à toutes ces séries en ligne. On peut regarder les sous-titres, on peut personnaliser ses cours. Donc, le numérique fait partie des recours essentiels. Après, voilà, la question de savoir comment l'organiser.
Alors, il faut qu'on parle du prix quand même, parce que la jeune femme qu'on a entendue tout à l'heure, Mathilde, disait qu'elle payait une application 10 euros par mois. Ça se situe dans une fourchette moyenne pour les applis de langue comment...
Oui, beaucoup d'applis de langue sont à peu près sur ces prix-là, oui. Après, il y en a qui sont beaucoup plus chers, hein, mais en fin de compte, si on prend des logiciels comme Rosetta Stone, hein, qui sont un des leaders américains du domaine, on monte tout de suite un peu plus cher.
Mais justifié ou pas, quand le prix est plus cher?
Je ne me permettrai pas de dire ça. Après,
vous en avez testé beaucoup, c'est un peu votre domaine de recherche.
Personnellement, je suis pour la démocratisation, et plus les prix sont bas, et plus on va même vers la gratuité, mieux c'est. Après, je comprends que les entreprises aient besoin de payer des gens et de vivre, mais évidemment, je pense qu'on peut aller vers le toujours moins cher.
Les applications gratuites, en général, elles débouchent souvent sur une offre payante ensuite, sur une offre premium ?
Ça dépend. Alors, c'est vrai qu'il y a une offre qui est extrêmement large. Et puis, la question du coût dépend aussi des services qui sont offerts. On a aussi beaucoup de cours qui utilisent les outils comme Skype, etc., finalement, pour mettre en lien avec des enseignants. Il y a aussi ça. Donc là, le coût va être... beaucoup plus élevé.
Ouais. Qui sont les utilisateurs de ces applications, de ces MOOC, de ces logiciels, de ces sites? Et puis, quel est le degré de satisfaction? Alors, il y a des enquêtes maintenant?
Là, sur les applications, notre chercheur, à The Conversation UK, au Royaume-Uni, avait noté que c'était surtout les débutants. Voilà, qui avait une grande demande à ce point de vue-là, puis petit à petit, il y avait une érosion. Alors, est-ce que c'est une lassitude ou est-ce que c'est aussi que ces applications ont leurs limites et ne peuvent pas aller dans la personnalisation, on ne peut pas vous corriger un exercice de rédaction. On ne peut pas vous corriger une phrase exprimée à l'oral. Voilà. Alors, en tout cas, les débutants, voilà, sont les plus nombreux. Et ensuite, peut-être qu'on va plus vers ces offres avec des enseignants. Mais alors là, on rentre plus dans le cours par correspondance classique, ouais. En fait.
Le niveau de satisfaction, on en sait un peu plus, Mathieu Cizel.
Bah, là, je trouve qu'on manque de données à grande échelle sur la satisfaction. Après, si je peux répondre de manière qualitative par les anecdotes qu'on m'a racontées, très souvent, les apprenants, et moi le premier, finissent frustrés au bout d'un moment. Mais ça reste encore de l'anecdote. Je pense qu'en grande partie, les apprenants qui sont plus avancés trouvent moins leur compte dans ces applications. Oui. Finalement, parce que le plus souvent, on leur fait refaire des choses qu'ils connaissent déjà. Et à cause de ce manque de personnalisation, ça finit par être frustrant de refaire 10 fois le même exercice sur du vocabulaire qu'on connaît depuis 10 ans.
Alors justement, on va en parler des limites et puis peut-être aussi des progrès de la technologie pour combler ces lacunes pour l'apprentissage des langues étrangères avec des applications. Vous nous appelez, on a envie d'en savoir un peu plus avec vos expériences respectives. 33 1 84 22 71 71. On attend vos appels, les voisins.
Listen to these words. And see if you can work out what they mean. Chocolate. Un hospital. Importante. Urgente.
Ich. Noch ich.
Jeg lærer. Jeg vil gerne tale svensk.
Til den garçon.
Boy.
Boy.
A man.
A man.
I am a girl.
Fille.
Am.
I'm so. Continue.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
33 1 84 22 71 71. Apprendre les langues avec des applications, avec des MOOC, avec des logiciels. Un voisin nous expose ses difficultés, on l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Koné vraiment. J'appelle de la Côte d'Ivoire depuis de tout quoi. Moi, bon, j'ai téléchargé une application d'espagnol avec laquelle je me suis amélioré un peu en espagnol. Après cela encore, j'ai téléchargé une autre application concernant, bien sûr, aussi l'anglais. Pour un apprenant, ce n'est pas du tout facile parce qu'il y a des mots en français qu'on n'arrive pas à traduire de manière compréhensive. Avec ces applications, on peut apprendre, mais il y a des mots où vous n'arriverez jamais à comprendre. Il faut avoir au moins l'aide de quelqu'un qui puisse vous expliquer le sens des mots en termes pour que vous puissiez comprendre vraiment ce que le mot veut dire. Vraiment, merci et bonne émission à vous.
Voilà, parfois, il peut manquer un prof quand même. Hein. On entend bien quand même Koné qui est un peu désemparé tout seul avec son application. Mais en même temps, bah, quand on est loin d'avoir à portée de main un professeur, c'est pas mal. On donne la parole à Djanga qui nous appelle de Yaoundé au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp. Bonjour Djanga.
Bonjour.
Vous êtes au Cameroun. Vous avez appris l'allemand au lycée pendant 4 ans, hein, 2 heures par semaine, c'était le programme. Et puis vous avez poursuivi votre apprentissage de l'allemand avec des applications, c'est ça Djanga?
Oui, c'est ça.
Ouais, racontez-nous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez vécu cet apprentissage?
Oui, en fait, après mon baccalauréat, j'ai découvert l'application Babel par une publicité à la télé. Donc j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé l'apprentissage.
Ouais. Donc dans un premier, c'était gratuit au départ, hein, c'est ça?
C'était gratuit au départ, effectivement. Ouais. Mmh. Et après, ils ont commencé à afficher des offres qui disaient qu'il faut passer à tel niveau, vous devez payer 4 euros, ensuite 6 euros, ensuite 9,95 €.
Oui, d'accord. Bon, c'est pas spécifique aux langues, hein, ça. Toutes les applis, c'est comme ça, oui. D'accord.
Effectivement.
Et donc, alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui?
Ok, après ça, j'ai découvert une autre application, Duolingo, qui celle-là était gratuite. Donc j'ai commencé aussi à travailler dessus et à améliorer un peu des choses. Et ensuite, je me suis rapproché de l'Institut Goethe pour savoir quel était mon réel niveau par rapport à la réglementation en vigueur, quoi.
Oui.
Donc ils m'ont fait faire un test de niveau et après j'ai inséré une classe pour pouvoir composer le B1, ce que j'ai réussi après.
D'accord. Et vous avez l'impression que vous avez réussi le test au Goethe Institute grâce au travail que vous avez fait, au temps passé avec les applications?
Oui, mon niveau a beaucoup progressé grâce à ça.
En y passant combien de temps? Quelle régularité? Comment? Faites-nous un peu profiter de vos conseils.
À l'époque, bon, quand je rentrais quand j'étais étudiant, je rentrais de l'école, je faisais parfois 4 heures de temps d'affilée sur l'appli.
Ah oui.
Ensuite, le matin, parce qu'il y avait des objectifs quotidiens à atteindre, chacun choisissait l'objectif. Tu pouvais dire, OK, aujourd'hui, je fais 2 heures, demain, je fais 3 heures, demain, je fais 15 minutes. Donc, chacun choisissait. Et moi, j'ai pris le maximum parce que je voulais vraiment apprendre vite. Bon, il est vrai que je ne respectais pas ça tous les jours, mais bon, après, ça a quand même payé.
Ça veut dire que vous étiez super motivé, mais qu'en même temps, l'application vous aidait aussi à conserver la motivation d'une certaine manière, avec une forme d'engagement.
Oui, il m'envoyait des petits messages. Le matin, il me rappelait. Parfois, à midi, il vous écrit, vous n'avez pas encore ouvert l'application, qu'est-ce qui se passe? Donc, il m'envoyait des petites notifications.
Et au total, vous savez combien vous avez dépensé ou pas, Djanga?
Oui, bon, je ne peux pas vraiment savoir, mais je suis passé de Babbel à Duolingo parce que je n'arrivais plus à payer, justement. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché une application gratuite qui offrait à peu près les mêmes services.
Ouais. Duolingo qui a aussi une version payante, hein, me semble-t-il, Mathieu Cizel. Ouais.
Oui, il y a des services payants sur Duolingo. Oui.
Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de l'expérience de Djanga, Mathieu?
C'est quasiment la même que la mienne. Donc,
Oui,
pareil.
Quelle langue pour vous, Mathieu?
Russe pour Babbel. Et parce que pour réviser mes souvenirs de lycée, et après sur Duolingo, j'en ai fait plusieurs, japonais, chinois, etc. Mais après, oui, je trouve que Duolingo, en termes de gratuité, est probablement une des applications gratuites les plus répandues déjà. Ils annoncent plusieurs centaines de millions de comptes créés, hein. C'est un des géants de l'apprentissage en ligne, et je pense que la gratuité a largement contribué à ça.
Ouais, vous faites bien de préciser, ils annoncent, hein, parce qu'entre les comptes créés et la réalité de l'utilisation, il peut y avoir aussi... est-ce que, pour conclure, Djanga, vous avez quelques conseils à donner à nos voisins et à nos voisines qui ont envie d'apprendre une langue, qui ont commencé, qui ont arrêté, parce qu'on a quand même aussi parlé parfois de la lassitude, il y a beaucoup d'applis où les gens se découragent. Quels seraient vos conseils, Djanga?
Mon conseil serait d'abord, avant de télécharger l'application, il faut se rassurer qu'on aime la langue qu'on veut apprendre. Parce que si on le fait juste peut-être par la mode ou bien parce qu'on a entendu parler, on ne va pas vraiment se donner à fond. Donc au départ, il faut aimer ce qu'on veut apprendre et dès qu'on a du temps libre, se connecter, passer quelques minutes.
Vous avez une question à poser à Mathieu Cizel, qui est vraiment chercheur universitaire, le spécialiste de l'apprentissage via le numérique. Vous avez une question, je crois, Djanga?
Oui, j'en ai même deux, si vous le permettez.
Mais bien sûr, Djanga.
Ok. La première question, c'est est-ce qu'il existe des applis qui personnalisent l'apprentissage? Par exemple, celles qui sont le plus communes, il y a des contenus préenregistrés où on vient là et c'est parfois très répétitif. On se rend compte qu'on voit des choses qu'on a déjà vues avant et tout. Donc, et la deuxième question, c'est est-ce que l'apprentissage des langues, les applications gratuites sont forcément les moins bonnes? Donc, est-ce que la gratuité rime avec la mauvaise qualité d'une appli?
Alors, je vais prendre la deuxième question d'abord. Je pense que non, gratuité n'est pas du tout inversement corrélé à qualité. On peut avoir des applications gratuites de très bonne qualité.
Alors, juste parenthèse, c'est quoi le modèle économique d'une application gratuite? Elle vit de quoi?
Alors, en général, c'est les services premium. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle gratuit. Quand 80% du contenu est gratuit et il y a 20% de payants, elles vivent souvent de ces 20%.
D'accord.
Mais souvent, c'est pas cet équilibre qu'on retrouve. C'est 10-20% gratuit, 80% payant.
Puis il y a aussi les données, l'utilisation des données.
D'accord, des données clients. Voilà. Bon, voilà, votre donnée sera revendue, mais du coup, vous aurez appris une langue. C'est ça, finalement. D'accord, ça c'est pour la première question. Et la deuxième question sur la personnalisation.
Alors la personnalisation, du coup, ça nous amène à la question de l'intelligence artificielle. Oui, il y a des applications. Duolingo d'ailleurs a commencé à s'y mettre en 2015. Mais une des plus connues, si vous voulez un nom précis, c'est Lingvist, qui est une start-up des pays baltes et qui a commencé à industrialiser un peu ses approches de personnalisation des exercices. Donc Lingvist, hein, Lingvist, hein, pour ceux qui veulent regarder. J'ai pas de part dans cette... mais je suis chercheur, mais je regarde un petit peu. Il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que parfois, il y a des entreprises spécialisées de l'IA qui essayent de se mettre sur le domaine des langues. Hein. Newton, il y avait... Pensez à Newton, c'est une start-up spécialisée IA. Et donc,
américaine, new-yorkaise.
New-yorkaise même. Et on peut s'attendre à ce que dans les 10 ans à venir, l'IA en éducation, la personnalisation du niveau de l'exercice au niveau de l'apprenant, fasse des progrès énormes dans les applications grand public.
Les Chinois, à l'heure actuelle, sont massivement aussi sur cette question-là parce qu'il y a un marché, c'est ce que vous dites dans votre article, hein, il y a un marché intérieur, il y a une demande chinoise aussi pour apprendre des langues étrangères.
Alors, ce n'est pas que sur les langues, hein, c'est sur toutes les disciplines en général, mais il y a des géants qui sont en train de se mettre en place en Chine, hein, Squirrel AI en est un. Après, je pense qu'ils sont encore centrés sur le marché chinois, mais on ne peut pas écarter l'idée qu'à terme, ils s'ouvrent sur un marché plus international.
Djanga, est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Oui, merci.
Eh ben, merci à vous de nous avoir téléphoné et de nous avoir fait partager votre expérience chez 7 milliards de voisins. On parle de l'apprentissage des langues étrangères avec le numérique. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Aurélie Javadi, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant dans le témoignage de Djanga. Il précise bien qu'il a appris pendant 4 ans l'allemand au lycée. Et c'est à partir de cette base quand même et de ses connaissances qu'il peut ensuite se repérer pour juger quelles sont les applications utiles et bien utilisées, en fait, le potentiel de l'application des exercices de grammaire. Les enseignants-chercheurs montrent que c'est assez compliqué, en fait, aussi, de, quand il n'y a pas d'autonomie, d'arriver comme ça directement sur une application. Il y a l'exemple des podcasts. Ils prennent cet exemple des podcasts et du fait que dans une classe, on pourrait permettre une écoute plus personnalisée. Chaque élève aurait son MP3, écouterait à la vitesse qui lui correspond.
Vous avez raison, on peut régler les vitesses d'élocution sur le podcast,
etc. Et ils voyaient que les très bons élèves, voilà, au contraire, ça permettait d'avoir un apport meilleur, ça leur permettait d'avancer vraiment à leur rythme. Mais les élèves débutants avaient besoin d'être guidés par l'enseignant, en fait, dans l'utilisation du podcast pour découper, en fait, aussi les phrases et bien se repérer.
Et c'est vrai que l'enseignant, il est aussi là maintenant pour dire quelle technologie, comment s'en servir, pourquoi faire. L'enseignant de langue, il faut aussi qu'il soit assez renseigné dans le domaine de numérique, Mathieu Cizel.
Quand il n'y est pas hostile à ces applications, parce que très souvent, en fait, il y a une perception d'une forme de compétition, alors qu'on peut aussi arguer du fait que c'est des applications qui viennent soit quand il n'y a pas d'autres alternatives, soit dans des temps qu'on pourrait qualifier de perdus. Hein. Beaucoup de gens apprennent dans le métro sur Duolingo. Ouais. Donc finalement, ça peut se compléter, mais on perçoit souvent chez les enseignants une forme
de méfiance.
Bon. Notamment parce qu'on travaille pas assez l'approche de communication, documents authentiques, qui sont plus recherchées par ces enseignants.
Il faut absolument les rassurer très clairement dans cette émission. Les applications vont pas piquer le boulot des enseignants de langue.
Non, c'est complètement complémentaire, je pense.
Mais comme vous le dites, ça va le complexifier, en fait, justement, pour savoir comment puiser ses ressources, les organiser, les ajouter pour...
Donc il faut que les enseignants de langue soient pas à la traîne sur le sujet. Nous avons en ligne au 33 1 84 22 71 71 Martial qui est à Berlin. Bonjour Martial.
Bonjour.
On vous écoute Martial.
Alors moi j'ai pas fait d'études, j'ai 51 ans. J'ai fait un apprentissage. Donc je me suis retrouvé avec un CAP et à l'école j'étais un très mauvais élève. Donc j'ai appris aucune langue. Je ne maîtrisais même pas bien le français, notamment la grammaire.
Vous étiez dans quel pays à ce moment-là ?
J'étais en France.
Oui.
J'étais en France. Et à l'âge de 24 ans, je me suis retrouvé donc, pour travailler à Berlin, en Allemagne. Et je ne parlais pas un mot d'allemand, comme je n'avais rien appris. J'ai d'abord appris, donc il n'y avait pas d'application de façon autodidacte l'allemand. Je le parle couramment, je l'écris couramment. Et il y a 3 ans de cela, je me suis mis à apprendre l'anglais parce que je travaille dans un endroit touristique à Berlin et j'ai beaucoup de clients anglophones. Et j'étais très frustré de ne pas pouvoir parler un mot d'anglais, c'est juste si je pouvais dire « hello ». Donc je me suis mis à chercher une application qui était facile, où on n'allait pas apprendre avec la grammaire, mais seulement avec des mots. Et j'ai trouvé une application qui était formidable, dont je peux peut-être dire le nom.
Oh bah allez-y, on a cité plein d'applications, de toute façon.
Donc c'est Mosalingua.
Oui. Mathieu Cizel, opine du chef.
Mosalingua, c'est aussi une des connues. Enfin, je valide pas le contenu, mais qu'elle est connue et qu'elle est très utilisée.
Donc ça fait 3 ans que j'ai commencé avec cette application. Et mon application aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai appris environ 9500 mots. Donc j'ai un vocabulaire anglais maintenant de 9500 mots. Et je peux communiquer couramment avec mes clients, j'en suis très content.
Et comment vous faites pour la grammaire ? Je sais bien que la grammaire anglaise à côté de la grammaire allemande, il n'y a pas photo, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. D'ailleurs, sur l'apprentissage des mots, il y a quand même des liens hein, entre la langue allemande et la langue anglaise, et forcément, ça a dû vous aider. Mais comment vous avez fait, du coup, pour la grammaire ?
Oui. Alors, pour la grammaire, je vous dis honnêtement, je ne l'apprends pas, je ne l'ai pas appris.
Ah oui.
Parce que je me suis dit, les enfants, quand ils apprennent à parler,
ouais.
ils apprennent automatiquement avec leurs parents. Mmh. Et sans s'en rendre compte, ils forment des phrases, ils peuvent conjuguer des verbes au passé, au présent, au futur, sans savoir qu'on appelle ça le passé, le présent, le futur. Mm-hmm. Et je fais la même chose en anglais, et ça marche très bien. Okay. Et les gens sont apparemment très surpris de savoir, ceux qui me connaissent, mon niveau qui était tellement bas, et que maintenant il est tellement haut pour eux. Et je me dis que plus j'apprends en fait, plus c'est facile.
Ouais.
Et plus j'ai envie d'apprendre.
Et combien d'heures par jour vous étiez sur cette application pour apprendre l'anglais, Martial, et combien de temps ?
Ouais.
Ah bon ?
20 minutes environ, chaque jour, chaque jour.
Combien de temps ?
20 minutes environ.
Oui, mais sur une période de combien de temps ?
Ah, sur 3-4 ans maintenant.
D'accord, 20 minutes pendant 3-4 ans, tous
Alors,
les jours.
Alors j'utilise cette application même en marchant, vous savez, ça me renvoie des mots. Des fois c'est 5 minutes,
ouais.
J'ai une dizaine de mots. Après, je reviens l'après-midi, j'ai 10 minutes, j'ai peut-être une trentaine de mots,
bon,
etc.
Martial, allez, présentez-vous en anglais, là, on a envie quand même de...
Oh, no, I don't want to speak English now, ouais. because it's a French radio.
Mais c'est quand même le sujet qui nous concerne tous aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce témoignage, Martial. Vos réactions, alors, notamment sur le fait d'avoir squeezé la grammaire, finalement.
Oui, alors... C'est quand même, il faut quand même bien repréciser que les enfants n'apprennent pas de la même manière que les adultes. Il y a une chercheure qui a publié différents ouvrages enfin, qui sont assez grand public, Barbara Abdelila Bauer, on peut se reporter
oui,
à ses travaux.
Oui, elle est déjà vue dans notre émission.
Vulgarisation, voilà, et qui explique bien que les processus d'apprentissage des langues ne sont pas les mêmes hein, pour les adultes. Donc voilà, après, Martial a peut-être des facilités aussi, puisqu'il s'est déjà initié
extraordinaire
à l'allemand.
Autodidacte, en tout cas.
Voilà, c'est au cas par cas, on peut pas juger. La question de la grammaire, par contre, voilà... La liste de vocabulaire ne suffit pas, il faut aussi mettre tout ça en question, mais peut-être que Mathieu peut dire, parce que
ouais, vous et avez, puis surtout, on arrive au terme de cette discussion, Mathieu Cizel, j'aimerais justement qu'on en déduise vraiment les conseils essentiels à retenir de ces témoignages, de tout ce qu'on a dit pour nos auditeurs.
Bah, je dirais qu'il faut commencer par identifier les méthodes d'apprentissage qu'on aime. Est-ce qu'on aime apprendre plutôt avec des séries ? Est-ce qu'on aime apprendre avec des exerciceurs ? Est-ce qu'on aime apprendre en écoutant des podcasts ou des vidéos ? Et une fois qu'on a choisi ça, on tape sur Google podcast apprentissage telle langue et en quelques minutes, on trouve soit sur le Google Play, soit sur Internet, toutes les applications dont on a besoin.
Un dernier conseil ?
Oui, la régularité, évidemment. Il ne faut pas se laisser décourager parce que ce n'est pas en 3 fois 20 minutes qu'on apprendra une langue. Il faut suivre l'exemple de Martial sur plusieurs mois, voire plusieurs années.
20 minutes tous les jours pendant 4 ans. En tout cas, bravo à tous ces témoignages qu'on a entendus, qui donnent vraiment envie, qui sont positifs, même si, bien sûr, il ne faut pas faire l'impasse sur les efforts que ça demande. Et ils sont très clairs. Vraiment un mot, Elie Javadi.
Peut-être juste compléter, ne pas oublier dans l'offre, l'offre des médias, de la BBC, notamment. Vous parliez aussi...
Et de RFI,
voilà, qui décline en fait justement à partir de ressources authentiques des parcours très intéressants. Ça, c'est des ressources fiables.
Et on va vous mettre les liens, bien sûr, sur notre page, sur le lien pour apprendre le français ou se perfectionner en français. Et merci à tous les deux, Aurélie Javadi et Mathieu Cizel, pour en savoir plus. Il y aura des références sur notre page et les liens, bien sûr, pour accéder au site The Conversation et à tous les articles sur le dossier. Dans quelques instants, la chronique de notre voisin psychologue, Ibrahima Giroud à Dakar. When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now, and she's out every night. I see that look in her face. She's got that look in her eye. She's thinking, how did I get here? I'm wondering. True, how society says.
de ce qu'elle rêvait hier. Solitaire trentenaire.
Lily Allen et House chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI et maintenant c'est la chronique d'Ibrahima Giroud.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Enfants d'ici et d'ailleurs, c'est la chronique du psychologue Ibrahima Giroud. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychologue à Dakar, vous travaillez pour l'UNICEF et on vous écoute régulièrement chez 7 milliards de voisins. Et puis cette chronique aussi est à récupérer sur les plateformes de téléchargement, à écouter en podcast, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Alors là, on va démarrer toute une série de, avec plusieurs épisodes. Conseils pour mieux suivre la scolarité de son enfant. C'est une question centrale pour les parents qui, évidemment, veulent tous que leurs enfants réussissent à l'école. Premier épisode de cette série, accompagné du réveil à l'école. C'est-à-dire dès que l'enfant se réveille le matin.
Tout à fait, Emmanuel. Parce que l'école commence également au réveil. Mais c'est bien connu, le parent joue un rôle central, déterminant dans la réussite scolaire de son enfant. Réussir la scolarité, ce n'est pas seulement en relation avec les notes, mais l'école, c'est un tout, c'est également toute la mentalité que l'enfant se forge au contact de l'école, comment est-ce qu'il vient faire face aux challenges que l'école va lui poser, comment est-ce qu'il gère ses interactions avec l'école, avec les enseignants. Tout ça, ça prépare l'enfant à réussir à l'école et dans la vie. Et pour cela, la qualité de l'accompagnement parental va jouer un rôle central, voire indispensable. Mais précisons-le tout de suite, Emmanuel, cet accompagnement n'est pas nécessairement lié au niveau d'éducation des parents. Combien d'hommes et de femmes de lettres ou de sciences sont enfants de paysans analphabètes?
Ça, c'est vrai.
D'autre part, même parmi les parents instruits, beaucoup ne connaissent pas le programme scolaire dans les détails ou ne parviennent pas à le suivre au fur et à mesure que le programme se complexifie au fur des années. Pour la petite histoire, beaucoup de parents me racontent, avec amusement d'ailleurs, qu'ils ont découvert seulement tardivement que leurs parents qui les accompagnaient dans leur scolarité ne savaient ni lire ni écrire. Alors que je les appelle les parents B52, ceux qui ont Bac plus 8, Bac plus 7, ont du mal à accompagner simplement la scolarité de leur enfant.
Du coup, quelles étaient ces bonnes recettes de ces grands-parents qui n'avaient pas fréquenté les bancs?
C'était des choses assez simples au final, mais ça se trouvait dans trois domaines. Dans la maison, dans la relation à l'école et dans la relation avec son enfant. Mais tout commence à la maison. Comment votre enfant a dormi la veille? Comment il se réveille? Comment est-ce que vous passez les premières heures, les premiers moments, notamment le petit déjeuner? Comment son temps est aménagé pour préparer sa journée à l'école? Comment vous l'accompagnez jusqu'à la porte de la maison ou jusqu'à la porte de l'école? Tout cela compte énormément. Prenons simplement l'exemple du sommeil. Si votre enfant dort tard ou dort mal, alors il aura du mal à se réveiller. Et généralement, le parent court derrière un tout petit peu pour que l'enfant se lève, pour qu'il prenne sa douche et son petit déjeuner. Les premiers échanges se passent mal.
Oui, il y a des cris, des énervements.
Exactement, et l'ambiance est un peu polluée. Et l'enfant prend le petit déjeuner sans se nourrir parce qu'il a la peur ou le stress au ventre. S'il est accompagné jusqu'à l'école, vous le sentez, le chemin devient long avec des silences qui en disent assez long. Et dans ce cas, le risque pour qu'il passe une mauvaise journée augmente puisqu'il n'aura probablement pas toute l'énergie dont il a besoin, en particulier s'il s'agit des tout-petits ou des enfants qui sont à l'élémentaire.
Alors, quelle solution concrète pour aider les parents qui sont dans cette situation?
On revient à des choses simples, Emmanuel. Premièrement, veillez à ce que son enfant dorme tôt, ce qui suppose qu'il dîne tôt, mais ce qui suppose également que le dîner se passe bien pour une bonne préparation du sommeil. Ensuite, réveillez son enfant suffisamment tôt et sans violence, y compris si on devait utiliser des techniques comme le jeu. Mm-hmm. On peut avoir une ambiance assez ludique. Troisièmement, impliquer son enfant en fonction de son âge dans la préparation du petit déjeuner. On peut par exemple lui demander d'amener les assiettes, d'amener les couverts ou peut-être même préparer les omelettes, des choses assez simples comme ça. Quatrièmement, habituez votre enfant à prendre un peu de temps pour visualiser ou imaginer sa journée et comprendre ce qu'il attend à l'école.
Oui, mais s'il est devant la télé jusqu'au départ pour l'école.
C'est justement ce qu'il faut éviter. La télé est parmi les choses qu'il faut vraiment éviter, mais aider l'enfant, y compris en discutant avec lui, pour qu'il comprenne. On peut lui poser des questions. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quel est le programme? Et en fonction de l'âge de l'enfant, il peut trouver des réponses. Ou voire même, on peut faire des dessins si c'est des enfants plus petits.
Donc tout ça veut dire pas de télé au petit déjeuner.
Pas
donc,
de télé au petit déjeuner. Ça, c'est très important. L'enfant a plus besoin de son parent que de la télévision. Et dernièrement, accompagner son enfant sur le chemin de l'école, au moins jusqu'au seuil de la porte. Et profiter, prendre au moins une minute avec son enfant et lui donner les bons conseils et lui montrer qu'il est important pour vous et pour la société.
La question à méditer pour la fin de la semaine, Ibrahima Giroud, pour ceux qui nous écoutent le vendredi.
Si le parent ne prend pas le temps de préparer son enfant à aller à l'école, alors qui le fera? Et comment assurer à votre enfant une année scolaire de qualité si vous ratez chaque jour les opportunités de l'aider?
Merci à vous, Ibrahima Giroud. On retrouve toutes vos chroniques sur les plateformes de téléchargement parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Et on poursuivra la suite de cette série sur l'accompagnement des parents à l'école avec un nouvel épisode.
Alors, on dit quoi?
Et tout de suite, la voisine de Alors on dit quoi, Diara Ndiaye, vient de nous rejoindre dans le studio des 7 milliards de voisins. Bonjour Diara.
Bonjour Emma.
Coucou, on est ravis de vous recevoir.
Plaisir partagé.
Alors on dit quoi, cette semaine, samedi, brise les tabous du viol.
Effectivement Emma, le viol est une réalité qui peut frapper sans distinction sociale, culturelle ou géographique. Cette émission, elle a été enregistrée dans les locaux de l'association Les Résilientes. C'est une association d'aide aux victimes de violences sexuelles qui est basée à Paris. Et on a rencontré des victimes qui nous racontent cette douloureuse expérience.
On m'a dit, lors de mon dépôt de plainte, ça a duré 5 heures à la brigade de protection des mineurs, on m'a dit qu'on reconnaît le préjudice que j'ai subi, ça s'appelle un viol sur mineur, et si j'étais encore dans mes droits, c'était passible de la cour d'assises, et qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a prescription, donc il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Mais en fait, le fait que les policiers me disent ça, ça m'a suffi qu'on me dise, on reconnaît le préjudice, et c'était passible de la cour d'assises, et ça s'appelle un viol sur mineur. Moi, ça m'a vraiment suivi pour ma reconstruction, en fait. Et je me dis, OK.
Alors, on dit quoi? Pour suivre la suite de ces témoignages, rendez-vous à 9h10, temps universel. Ça, c'est sur l'antenne Monde.
Et 11h10, temps universel, sur l'antenne Afrique, Eman.
À ne pas manquer. Merci, Diara Ndiaye.
Et merci infiniment, Emma. Et bonjour aux auditeurs de RFI.
Et merci à toute l'équipe, Delphine de Dianou, Cécile Lavolo, Romain Dubrac. N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions. Nous retrouvez bien sûr sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et on se retrouve lundi, 7 milliards de voisins. On parlera de la dot en Afrique. Quand la mariée coûte de plus en plus cher, ça coince. Ne manquez pas le reportage de Charlie Dupio au Togo, à Lomé, Cara et Bafilo, et les débats des jeunes très partagés sur la question de la dot. Et bien sûr, vous pourrez réagir sur notre WhatsApp avec des messages écrits 33 1 84 22 71 71. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine sur RFI. Dans quelques instants, le journal.
Vous les avez entendus ou découverts.